Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Tout va bien pour vous en Suisse ?
Écoutez, ça va bien. La vie a repris depuis le 11 mai et la vie est presque normale. C'est assez particulier de voir que tout d'un coup déjà, les gens sont dehors, les magasins sont ouverts et on espère que les gens vont rester en bonne santé et que tout va bien se passer.
Et vous espérez que les gens vont se rendre un petit peu en librairie pour aller acheter l'énigme de la chambre 622. Sarah et Joël, vous êtes presque des intimes maintenant, parce que vous avez passé le week-end ensemble déjà.
On s'est déjà vu, c'était au même endroit, pas à la même heure.
Oui, puisque vous étiez invité de On n'est pas des pigeons à la maison, c'était samedi soir.
Un bon moment.
En direct sur la Une. Intéressons-nous à la chambre 620, l'énigme de la chambre 622. C'est la première fois que votre histoire se passe en Suisse. Vous êtes Suisse, c'est important pour vous d'avoir une histoire qui se passe chez vous ?
Oui, c'était important parce que mes précédents romans se passaient aux États-Unis. Je suis Suisse, je suis né en Suisse, j'habite en Suisse. Mais parfois, les Suisses me disaient « Mais t'es édité en France et tes romans se passent aux États-Unis. » Et les gens, j'ai l'impression autour de moi, en Suisse, avaient de la peine à voir où était mon identité suisse dans mes romans.
Vous étiez rien de vous faire sortir du pays, quoi.
Mais c'était important pour moi de montrer aussi mon attachement à la Suisse, de montrer cette identité suisse. Et de pouvoir aussi parler un peu de la Suisse à des lecteurs dans le monde entier.
On va parler de l'histoire dans quelques secondes, mais un mot sur le planning autour de ce livre. Donc il doit sortir, il est imprimé, il est prêt, il est terminé. Mm-hmm. Puis il y a le confinement, et puis vous devez attendre. Sur cette période d'attente, avant qu'il sorte il y a quelques jours, est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, tiens, ce truc-là, je l'aurais bien changé dans le livre. Est-ce qu'il y a des regrets une fois qu'il est prêt, qu'il est imprimé, mais qu'il y a du délai avant qu'il soit acheté ?
C'est une bonne question, parce que c'est le moment le plus terrible, c'est le moment où votre livre est terminé et le moment où il paraît. En général, il n'y a pas beaucoup de temps, donc on n'a pas tellement le temps de se dire « mais est-ce que là j'ai bien changé ? Est-ce que là j'aurais pas dû faire ça comme vous le dites ?» Au moment où le livre est mis à l'arrêt pour 2 mois, j'ai passé 2 mois à ne pas écrire parce que je me disais « mais est-ce que je suis sûr de ça ? Est-ce que je suis sûr de ci ? Est-ce que j'aurais peut-être dû faire ce changement-là » Et c'est affreux parce que tant que le livre il n'est pas entre les mains de mes lecteurs, jusqu'au bout, je suis dans l'idée de me dire « mais je pourrais changer ça et ça et ça ». Ouais. Et donc cette attente d'avoir ce livre dans les mains des gens et en me disant « bah maintenant il est lu, c'est foutu », j'ai passé 2 mois à me dire « mais qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ?»
Alors il y a des regrets ou pas finalement ?
Non, heureusement pas. Il ne faut pas avoir de regrets. Mais il y a du tracas évidemment, hein. Ça tourne dans votre tête. Dites, mais voilà, on peut toujours faire un livre qui est différent. On pourrait passer une vie entière à écrire le même livre et à le reprendre et à changer ci et ça. Et donc, ces 2 mois étaient frustrants pour ça. C'était de se dire, mais est-ce que j'aurais eu 2 mois de plus ? Est-ce que j'aurais dû faire autrement ? Enfin, voilà, c'est vrai que ça tourne beaucoup.
Alors, ce livre se passe, enfin, l'histoire se passe en Suisse. Sarah, vous le disiez tout à l'heure, c'est Joël qui est au cœur de l'histoire au départ.
Écrivain.
Vous êtes, je dis vous, mais est-ce que c'est vous dans le livre ou pas ? Donc, cet homme qui est dans un hôtel, qui découvre qu'il y a eu un meurtre dans cette chambre d'hôtel, mais des années auparavant, et puis qui se lance dans cette histoire. C'est vous ou c'est pas vous ?
Non, c'est pas moi. C'était un jeu aussi, parce que vous savez, dans mon roman Harry Keber, le héros s'appelle Marcus Goldman, et depuis 10 ans, Les gens me disent « mais Marcus, c'est toi ». Et je dis « bah non, Marcus, New York, c'est pas Joël en Suisse ». Et les gens me disent « mais non, je suis sûr que c'est toi ». Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que celui qui décide dans un livre, c'est pas l'auteur, c'est le lecteur. C'est lui qui décide qui est qui et qui fait quoi et comment sont les personnages et les décors. Et du coup, ça m'a amusé de mettre un personnage qui s'appelle Joël et qui n'est pas moi pour mettre en lumière un peu ce rôle que le lecteur a et dire au lecteur qui décide lui. Vous pouvez passer 10 pages d'écrire un personnage avec tous les détails possibles et imaginables de son corps, ses vêtements, absolument tout. Si le lecteur, quand il lit ces pages, il imagine autrement, différemment que ce que vous avez écrit, vous êtes foutu.
J'ai posé la même question à Guillaume Musso, qui était notre invité la semaine dernière, parce que j'ai lu le dernier Michel Bussy aussi. C'est fou cette tendance que tous les trois, en tous les cas, vous avez à parler des écrivains. C'est dingue. Et c'est plus ou moins au même moment en plus.
Bon, moi, c'est un sujet qui me préoccupe depuis presque 10 ans. Hein. Harry Keber était le début pour moi de cette question de l'identité. Quand Harry Keber est sorti, j'avais 27 ans. C'était mon 2e livre. J'écrivais depuis 10 ans, mais je me sentais écrivain que depuis quelques mois, depuis l'apparition de mon premier livre. Et j'avais toute cette question de me dire, qu'est-ce qu'un écrivain ? Qui fait un écrivain ? Parce qu'un écrivain, c'est un métier qui ne répond pas à des études ou à un cursus. C'est quelque chose que vous apprenez un peu sur le tas. Et où souvent, votre sensation d'être un écrivain, elle est définie par les autres qui vous le disent. Et c'est pour ça que pour moi, il y avait cette nécessité, toujours un peu maintenant, de me dire, mais qui sont les écrivains? Comment est-ce qu'on le devient? Quel est ce rapport à l'écriture et aux gens aussi? Et ça fait maintenant, c'est mon quatrième livre dans lequel je me pose cette question. Je pense que j'arrive un peu au bout parce que voilà, j'ai grandi aussi, je fais d'autres choses maintenant, j'ai peut-être aussi pris un peu d'assurance dans cette identité. Mais pour moi, ça a été une question qui m'a vraiment... Voilà, je me suis posé cette question pendant très longtemps de me dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on est un écrivain? C'est pas parce qu'on vend des livres qu'on est plus un écrivain qu'un autre. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette identité? Qu'est-ce qui fait que ça ressort tout d'un coup plus ou moins?
En tout cas, ça fait rêver la vie d'écrivain, je trouve. On est tranquille, pépère, on s'organise comme on veut, on sort un livre par an. Non, mais il y a beaucoup de travail.
Oui, je trouve c'est que ça les vacances, votre métier, en fait.
C'est pas ce que j'ai dit, mais...
Vous glandez, mais alors là...
À rien faire de la journée.
Vous avez la liberté de votre travail, en fait.
C'est ça, vous écrivez sur un set de table, deux, trois trucs, et puis c'est bon, on en voit. Bah oui.
L'incertitude de la feuille blanche aussi, hein.
Oui, aussi.
Qu'est-ce que vous racontez? Alors justement, sur la manière de bosser, c'est assez dingue, vous, Joël, parce que c'est pas le cas de tous les écrivains. Vous démarrez le livre, vous êtes au même niveau que le lecteur, vous ne savez pas ce qui va se passer après.
Absolument.
C'est fou, ça, comme manière de travailler.
Je travaille sans plan. Ben, je travaille sans plan parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de savoir si j'ai du plaisir dans ce que je fais, si le livre me plaît. Aussi de garder une liberté, parce que j'ai l'impression que si j'avais déjà un plan dans lequel je dis voilà le début, milieu, fin, et voilà, je me briderais un peu, je m'empêcherais d'aller plus loin ou de faire d'autres choses que ce que je voulais faire, parce que voilà, pour moi le plan c'est l'empêchement.
C'est ça le secret pour le rythme? Parce que c'est comme une série qu'on regarde où à la fin de l'épisode il se passe un truc et on se dit je dois absolument regarder le prochain, même si je ne vais dormir que 30 minutes au final. On a ça avec votre livre, c'est qu'on est obligé de passer à la page suivante. C'est ça le secret, c'est de votre côté de ne pas avoir de plan?
Je ne sais pas si c'est le secret, mais en tout cas, c'est vrai que de ne pas avoir de plan, quand je finis un chapitre et donc je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, en général, je mets une suspension dans l'histoire. C'est-à-dire que je me dis, et là, il ouvre la porte, et puis là, c'est là pour moi de rentrer, manger ou faire je ne sais pas quoi. Et donc, je me dis, je vais rester là. Et ça me permet, moi aussi, quand je rentre chez moi et quand je ne suis pas en train d'être dans le roman, de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? De garder cet esprit en alerte. Oui. Pour essayer de savoir ce que j'ai envie de faire dans le chapitre suivant et dans le reste du livre.
Le livre s'appelle L'énigme de la chambre 622. On souhaite plein de succès à votre roman. On doute pas que ça va cartonner.
Oui.
Et puis, merci. Comme peut-être pour d'autres, il y aura une adaptation télé, cinéma, qui sait, hein, Joël?
Harry Kéber, il y a déjà eu une série.
Il y a déjà eu, oui.
Harry Kéber, oui. Après, il y a de l'intérêt pour plusieurs de mes livres, mais il faut trouver un projet qui me plaise. Et il faut aussi, voilà, le problème du cinéma et de la série télé, c'est que pour mettre en place, ça peut prendre plusieurs années. Mmh. Et c'est pas comme un livre. Un livre, vous l'écrivez et c'est fait. Et c'est
vous voyez que c'est pas beaucoup de travail.
Vous êtes épouvantable.
Joël Dicker, merci d'avoir été notre invité ce matin.
Merci.